Matière à penser, Dominique Rousset.
Et le troisième volet de notre série Environnement qu'il est dur de convaincre. Partant du constat désormais indéniable de la dégradation des conditions climatiques et du rôle actif, croissant des activités humaines dans ce processus, des risques aussi encourus dans un avenir très proche. Nous avons déjà parlé avec Jean Jouzel de la perplexité, voire parfois du découragement des spécialistes scientifiques devant les résistances qui sont encore opposées aux décisions que les politiques devraient prendre et devraient prendre maintenant. Nous avons aussi des raisons d'espérer, nous allons les mettre en avant, nous l'avons déjà fait. Et nous recevons ce soir un ingénieur, l'avenir n'est plus ce qu'il était. Bonsoir Philippe Biouix.
Bonsoir.
L'avenir n'est plus ce qu'il était, vous l'empruntez à Paul Valéry, c'était en 1937, il ne pensait pas encore au climat. Votre titre à vous, un dernier ouvrage qui vient de paraître à la très très bonne collection Anthropocène du Seuil, Le bonheur était pour demain. Vous l'avez mis au passé, vous allez nous dire pourquoi. Et vous avez également ajouté en sous-titre Rêverie d'un ingénieur solitaire, 10 promenades et pas 10 chapitres. La référence à Jean-Jacques Rousseau est très claire, discours sur les sciences et les arts, l'idée selon laquelle le progrès technique et le progrès moral ne font pas bon ménage, ne vont pas à la même vitesse. Et vous avez également des attaques très rudes, on va le dire tout de suite, contre ce que vous appelez le technosolutionnisme BA. Pourquoi Rousseau? Pourquoi ces titres? Pourquoi au passé?
Alors Rousseau, parce que ça permet d'avoir un certain éclectisme et ça permet sans doute de papillonner un petit peu et les promenades sont tantôt un peu historiques, tantôt plus philosophiques peut-être et puis tourner vers l'action pour la fin de l'ouvrage, c'est quand même un petit peu mieux de pas laisser les gens dans une désespérance absolue. Et puis pourquoi le bonheur était pour demain? Eh bien tout simplement parce que en remontant un petit peu la pelote de laine des promesses technologiques, du fait qu'on va résoudre tous nos problèmes grâce au progrès technologique, ce qui est encore un discours extrêmement prégnant aujourd'hui, eh bien on peut remonter sur 4 siècles, jusqu'à Francis Bacon exactement, et quand on regarde tout ce qui nous a été promis depuis ces 4 siècles, et en passant par la fin du 19e, par les années 50 avec le nucléaire, etc., eh bien on s'aperçoit qu'effectivement on nous a toujours promis le bonheur pour demain, mais qu'on a, en même temps qu'on avait des progrès technologiques indéniables, eh bien créé des grosses difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est l'homme éternel qui est promis, c'est le transhumanisme bien sûr, et c'est dans le domaine qui nous occupe de l'environnement, par exemple la géo-ingénierie, on va en dire 2 mots. Ce livre-là, on suit 2 autres qu'on va peut-être mentionner quand même. D'abord, l'âge de la low-tech, c'était le précédent. La low-tech, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, ralentir toute cette technologie qui devient un petit peu folle selon vous. Et auparavant, le désastre de l'école numérique. Cela a fait réagir pas mal. Vous faisiez état d'inquiétude sur justement cette propension à mettre des ordinateurs partout. Est-ce qu'on apprend mieux avec? Rien ne le prouve, dites-vous.
Oui, absolument.
C'est un point de départ de l'éducation.
Je l'ai coécrit avec une ancienne prof, Karine Movili. J'ai pu constater à la fois dans les discours ambiants et puis même avec mes propres enfants cette poussée numérique à l'école, alors qui part a priori, on pourrait dire, d'un bon sentiment. Hein, on doit former les citoyens numériques de demain, donc comme peut-être la famille ne le fait pas systématiquement, et bien que l'école s'en empare. Et en réalité, on s'aperçoit que malgré toutes les promesses formidables d'outils numériques avec des ressources quasi infinies, des profs qui vont se transformer en ingénieurs pédagogiques, en catalyseurs d'intelligence, on voit dans ces grands rapports, mais en fait, c'est extrêmement maigre. Il n'y a pas aujourd'hui de preuves formelles, disons, d'un point de vue scientifique, sur le fait qu'on apprend mieux. Il y a très très peu de choses, parce que c'est compliqué, si vous voulez, d'accompagner des groupes témoins d'enfants sur, je ne sais pas, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Imaginez de dire, on leur a mis une tablette dans les mains à 3 ou 4 ans. Donc il y a des choses, des petites expériences qui montrent que finalement, on n'apprend pas forcément mieux avec de la vidéo par rapport à du papier, par rapport à des schémas, et que c'est plutôt la question de savoir si on a été acteur, si on a écrit, si on a pu, absorber et ensuite réexprimer soi-même le message à comprendre. Et donc c'est pas tellement lié en fait au support. On constate évidemment, et les profs constatent une certaine fascination quand on sort des outils numériques dans la classe. Alors maintenant, cette fascination a tendance à disparaître parce que finalement, la nouveauté, l'attrait de la nouveauté, bien entendu, disparaît rapidement. Et puis, sur des grandes études, alors là, c'est plutôt de type PISA, enfin, les tests un petit peu comparatifs, eh bien, on constate aucune corrélation entre le niveau d'effort numérique des différents pays et puis les résultats. Ça veut dire qu'en gros, on apprend sans doute pas mieux, sans doute moins bien, parce que derrière, il y a... Alors ça dépend de l'âge, évidemment, tout ça. On a surtout, nous, évidemment, contesté le numérique à l'école primaire, au collège, moins, évidemment, au lycée ou pendant les études supérieures.
Ils ont tous un ordinateur, hein, tous les cours.
Voilà, bon, ouais. Donc ça, on va dire qu'il y a un âge à partir duquel on peut faire ce qu'on veut, et on est responsable de ce qu'on veut, mais il y a un âge où, au contraire, les outils numériques, on y passe déjà trop de temps. Ils ont un côté addictif, ça crée des problèmes de santé publique également. Et puis alors, il y a les tout petit, où là, pour le coup, les psychologues, les pédopsychiatres sont extrêmement clairs et il y a de plus en plus de papiers scientifiques qui sortent sur les dangers de mettre trop rapidement des outils numériques dans les mains des enfants. Tout ne doit pas être non plus gamifié, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de plaisir à croire qu'on apprend tout en jouant. Bien sûr que le jeu fait partie de la motivation potentiellement dans un certain nombre de circonstances, mais l'effort est aussi un truc qui fonctionne. Vous citiez tout à l'heure Paul Valéry, il y a des très beaux textes qui datent de ces années-là sur la question de l'effort, sur la question du fait d'avoir fait un effort et d'avoir réussi qui contribue aussi au plaisir d'apprendre. Donc, il me semble qu'aller vers une école trop simplifiée, trop gamifiée est un grand danger.
Ce préambule sur l'école, hein, on va revenir aussi sur la formation, y compris des plus âgés. Ce préambule, parce qu'au fond, vous êtes déjà à dénoncer l'omniprésence du numérique et pour d'autres raisons environnementales, vous expliquez dans ce nouveau livre à quel point cela peut être préjudiciable pour nos sociétés et pour nos économies même, et bien entendu pour notre environnement. Vous êtes ingénieur, je l'ai dit, et vous précisez, vous n'êtes pas sociologue, vous n'êtes pas anthropologue. On peut être surpris qu'un ingénieur défende vos positions qui sont en gros contre la technologie quand elle va un peu trop loin, en tout cas, c'est votre point de vue. Est-ce que vous êtes collapsologue ? C'est très à la mode en ce moment. Vous faites partie du fameux institut Momentum qui est collapsologue.
Oui, enfin, dans un certain nombre de membres.
Vous définissez comme tel, Philippe Biouris,
aussi ? Non, j'aime pas trop me définir comme tel.
L'effondrement, hein, je le rappelle, c'est ce qu'on veut dire.
Voilà, d'abord parce que voilà, moi je n'étudie pas l'effondrement. Moi, je préférerais donner des idées ou des orientations pour éviter l'effondrement ou pour faire atterrir le vaisseau fou dans lequel nous sommes embarqués. J'ai évidemment une certaine connivence intellectuelle avec le diagnostic posé sur l'emballement, sur les exponentiels de notre monde en accélération permanente et le fait que dans un monde fini, il y a un problème de compatibilité, évidemment. Mais voilà, je préfère éviter d'avoir ce terme-là. Alors pourquoi, oui, je ne suis pas sociologue, ni anthropologue, ni psychologue, ni politologue. Pourquoi je donne mon avis? Eh bien, parce que il me semble qu'on a jusqu'à présent travaillé peut-être un peu trop en silo. Donc, les ingénieurs, ce sont les gens qui déroulent les grands projets d'artificialisation du territoire, de course en avant numérique et technologique. Moi, je ne suis pas contre la technologie a priori. Je veux dire, je suis ravi que mon dentiste ait accès à la radio numérique et j'ai pas du tout envie de revenir au dentiste de mon enfance. Mais simplement, je pense que nous manquons de techno-discernement et que on veut mettre à toutes les sauces la technologie partout, à tout prix. On veut électroniciser nos vies. On nous vend depuis déjà 20 ans ou 30 ans, même si personne n'a envie du réfrigérateur qui fait les courses tout seul, on nous vend la domotique formidable. Aujourd'hui, c'est la Smart City, en passant par la voiture autonome. Toutes ces promesses-là sont d'abord des manières d'essayer d'ouvrir aux forceps de nouveaux marchés. Des choses dont nous n'avons pas forcément besoin. C'est de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin du distributeur de croquettes pour chats connectés avec dispositif de reconnaissance faciale pour éviter de nourrir tous les chats du quartier? Faut quand même pas exagérer. Ou bien, est-ce qu'il faudrait concentrer la technologie sur les endroits où c'est vraiment utile? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait concentrer la technologie là où c'est vraiment utile? Parce qu'elle est extrêmement coûteuse. Coûteuse en énergie et en ressources, même si on parle de technologie verte. En réalité, derrière tout ça, derrière le bâtiment du Far West, on a une arrière-cour qui n'est pas forcément très glorieuse.
Donc, atypique quand même, dans le milieu des ingénieurs. Vous êtes centralien, je ne suis pas sûr que la formation implique tout cela dans...
Non, sans doute. Alors, cela
vous
dit,
l'avez reçu il y a déjà quelques années, voilà, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est.
Quelques décennies. Bon, on va dire que Centrale, c'est toujours targué d'avoir une formation d'ingénieur humaniste. Alors, je ne sais pas si on en a tous gardé le même souvenir, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut au contraire se dire qu'il y a un véritable mouvement chez les jeunes, notamment chez les jeunes ingénieurs, pas que. Je pense que c'est une population extrêmement rationnelle, qui a fait des mathématiques, qui a fait de la physique, et qui sait donc que les lois de la physique sont têtues, qu'il y a des choses qui ne sont pas imaginables. imaginable. Voilà, on va pas vivre dans le monde de Star Wars et inventer le saut dans l'hyperespace, non. Il y a des choses un petit peu plus... ça va être plus compliqué que ça. Elon Musk nous propose d'aller conquérir la planète Mars, et non, ça va sans doute être un petit peu plus difficile que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et les gens qui ont une formation scientifique, je pense, sont particulièrement sensibles à cette question-là. Je vais juste vous prendre un exemple un peu stupide, mais pour dire que, imaginez que vous faites 2% de croissance par an. Alors, 2% de croissance par an, c'est bien pour l'emploi, c'est bien pour beaucoup de choses, mais il y a un moment où vous pouvez pas faire plus de 2% de croissance des émissions de carbone, sinon vous avez un problème climatique, ni 2% de croissance des énergies et de la consommation de ressources. Alors on va faire ce que les économistes appellent du découplage. Très bien. Donc on va réussir à faire de plus en plus avec de moins en moins. C'est toute la logique de l'économie circulaire et autres. Eh bien, imaginez 2% de croissance par an pendant un siècle. Ça veut dire multiplier par 7 la consommation. Donc il faudrait avoir un découplage d'un facteur 7. Et si vous voulez faire 2% de croissance pendant 1000 ans, il faudrait multiplier par 390 millions. Donc en gros, il faudrait que nos voitures soient 390 millions de fois plus efficaces dans 1000 ans. Donc vous voyez bien que très rapidement, quelqu'un qui a quelques notions de base de mathématiques va très rapidement s'apercevoir qu'effectivement, on a un problème et qu'il faut sans doute être mieux sociologue ou peut-être économiste et pas regarder les usines de trop près pour se dire qu'on va pouvoir aller dans un monde formidable et continuer la croissance comme avant.
Alors, autre illustration que vous démontrez dans cet ouvrage, ce 21e siècle va atteindre son pic de production des combustibles fossiles. Évidemment, ce que nous savons, le stock est quasiment fini. Mais ce qui vous inquiète, c'est que l'on va continuer à chercher quand même des ressources. On va en trouver ailleurs. Beaucoup se réjouissent, par exemple, que l'Antarctique soit en train de fondre parce qu'on va pouvoir y aller. C'est formidable. Sous la mer également, c'est commencé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des découvertes supplémentaires. Donc le problème pour vous est qu'au fond, la technologie progresse tellement vite qu'on peut continuer à exploiter des minerais qui paraîtraient inatteignables. C'était déjà le cas au Moyen-Âge, on n'avait plus de métaux, on est allé en chercher ailleurs, donc on continue à faire cela. C'est ça qui vous inquiète.
C'est la stratégie du...
Et parlons des métaux rares, c'est très important.
La stratégie du criquet, c'est-à-dire qu'on commence par consommer chez soi. La Gaule, par exemple, à l'époque de l'Empire romain, en gros, a été un grand producteur de métaux, d'or, de cuivre, etc. Bon, et puis à un moment, effectivement, à force de piocher dans le stock, il y en a moins.
Le Moyen-Âge, vous avez raison.
Bien avant. Alors après, on a résolu le problème d'abord par le commerce international. Par exemple, on traversait le Sahara avec de l'or dans un sens, du sel dans l'autre, donc ça permettait d'alimenter. Et puis ensuite, il y a eu le Nouveau Monde et ça a changé un peu les choses. Le débat sur les ressources, il est extrêmement ancien. Enfin, il date à minima des années 50, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, voire même du 19e siècle dans un certain nombre de cas, comme par exemple sur la question du charbon, qui a fait beaucoup débat à la fin du 19e siècle en Angleterre. Le paramètre qui a toujours été un peu négligé, c'est le paramètre du progrès technologique. Qu'est-ce que c'est qu'une réserve? Une réserve minière ou une réserve pétrolière, c'est quelque chose qu'on peut extraire avec la technologie actuelle et le prix actuel. Donc vous avez des ressources théoriques minières qui existent, qui sont connues, mais dont la concentration, la richesse est trop faible pour être produite avec la technologie actuelle et avec le prix actuel. Prendre juste un exemple, vous fixez les choses, c'est que quand vous allez extraire une tonne de minerai d'une mine de cuivre, vous allez sortir entre 10 et 20 kilos de cuivre, et dans une mine d'or, vous sortirez entre 1 et 5 grammes d'or. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre, la même pelletée, de sortir seulement 1 gramme par rapport à 20 kilos? Parce que nous sommes prêts à payer l'or, évidemment, plus cher que le cuivre. Donc la dimension économique est importante, et la dimension technologique est importante aussi. Le progrès, il est indéniable, il va continuer. On est par exemple aujourd'hui capable d'attaquer des minerais par ce qu'on appelle l'hydrométallurgie, c'est-à-dire qu'on va venir lécher les minerais avec des acides, avec des solvants, pour récupérer le contenu métallique et par chimie on va extraire. Et ça permet d'aller chercher des choses, les minerais de nickel par exemple en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui sont de ce type d'exploitation. Donc ça va continuer ces choses-là. Le seul problème, c'est qu'en fait il y a quand même une logique de circularité, me semble-t-il, entre les ressources et l'énergie. Ça marche un peu de la même manière, mais en fait, on attaque des ressources minières de moins en moins riches, donc en progrès en technologie, mais il faut quand même injecter de plus en plus d'énergie pour aller les chercher. Les mines sous-marines au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée consomment plus d'énergie pour récupérer la même quantité de métaux. Et je vous laisse imaginer si un jour on va exploiter l'Antarctique. Enfin, ça sera quand même plus facile que d'exploiter les astéroïdes, soyons clairs. Je ne le souhaite pas, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais sans doute on ira. Et à l'inverse, l'énergie, elle aussi, devient moins abondante, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la question du pic de pétrole ou du pic d'énergie fossile se pose et se posera. Et pour produire la même quantité d'énergie, que ça soit d'ailleurs en fossile ou que ça soit en renouvelable, il faut plus de matières premières. Parce que ce sont des énergies qui sont moins concentrées, parce qu'elles sont plus diffuses, parce qu'il faut stocker, etc. Et donc, on a cette espèce de mon point de vue, de cercle vicieux dans lequel nous sommes juste rentrés, de dire finalement, si on a une énergie...
On va éloigner de plus en plus la pénurie, au fond.
Voilà. Jusqu'à présent, on a repoussé la pénurie grâce au progrès, mais grâce à un extractivisme accru. C'est-à-dire que, voilà, il faut piocher de plus en plus rapidement dans le stock, parce qu'il y a toute une partie de la production qui est réutilisée pour produire et non pas pour consommer. Donc, en fait, on a cette impression d'abondance. Enfin, c'est même plus qu'une impression. Elle est réelle. D'ailleurs, il y avait un économiste des années 80, Julian Simon, qui avait fait un pari célèbre avec Paul Ehrlich, l'auteur de The Population Bomb, la bombe P. Biologiste des papillons, mais qui s'est emparé de la question démographique dès les années 60. Et ils avaient fait un pari sur la question de l'abondance. Simon a gagné son pari, puisque en fait toutes les ressources avaient baissé en prix en l'espace de 10 ans. Et aujourd'hui, il y a encore des gens, alors c'est plutôt d'ailleurs des gens qui sont très proches des milieux libéraux washingtoniens, on va dire ça comme ça, mais qui construisent un Julian Simon Index et qui suivent le prix d'une cinquantaine ou une centaine, je sais plus, de matières premières et qui montrent qu'en fait le prix ne cesse de baisser. Donc c'est assez étonnant parce qu'on a des matières premières qui baissent. C'est-à-dire qu'il faut toujours moins de travail humain pour se payer un kilogramme de cuivre ou un kilogramme d'or aujourd'hui. Mais en même temps, on a ce spectre de la pénurie réelle parce que finalement, on tape quand même dans un stock fini. Donc il y a bien un moment où là encore, c'est les mathématiques ou la physique qui vient nous rattraper. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un stock est fini, quelle que soit sa taille, eh bien, il y a un moment où la courbe de production doit s'inverser parce qu'on ne peut pas avoir une courbe qui monte jusqu'au ciel et qui s'arrête brutalement. On passe par un maximum et on redescend. Et ça s'appelle le pic de production et il n'y a aucune raison que on ne le
qu'on
subisse
soit
pas
un
moment un ou
jour.
Un autre.
Et surtout les métaux, on a évidemment sur le pétrole dont il est question déjà depuis bien longtemps, les années 70 nous l'ont montré, mais aujourd'hui sur tous les métaux, et plusieurs métaux même sur un même lieu, avec une complication supplémentaire, c'est quand même au centre de votre analyse, c'est que ce sont des grammes extraits, vous l'avez dit, hein, il peut y avoir très très peu de grammes pour une exploitation énorme, et qu'ils sont partout dans nos objets usuels, j'entends les ordinateurs, j'entends bien sûr les smartphones et beaucoup d'autres,
les
objets connectés, les voitures et tout le reste, et cela évidemment, sont faits pour durer et nous en voulons toujours plus.
Alors surtout, en fait, la différence entre le baril de pétrole et les métaux,
donc,
c'est qu'ils sont recyclables.
Alors
donc
voilà.
En fait, d'où la logique de dire, mais attendez, on va faire de l'économie circulaire, on va recycler à 100% ces métaux, il n'y aura aucun problème.
C'est la croissance verte, Philippe.
Exactement, c'est de la croissance
verte. Et vous ne l'aimez pas non plus.
En fait, je ne l'aime pas. J'aimerais bien qu'elle puisse être verte. C'est juste que je pense que c'est une promesse un peu en l'air. Alors, quel est le problème sur les métaux, en l'occurrence? C'est que, d'abord, tous les usages ne permettent pas de recycler. C'est-à-dire qu'il y a des usages que j'ai appelés dispersif ou dissipatif. Par exemple, 95% du métal titane est utilisé comme colorant blanc universel qu'on va trouver dans le papier, qu'on va trouver dans les peintures, qu'on va trouver dans les dentifrices, dans les crèmes solaires. Et donc celui-là, par définition, vous n'allez pas pouvoir le récupérer pour le recycler. Alors c'est le cas de la bouillie bordelaise, par exemple, hein, sulfate de cuivre pour la vigne bio. Hein, c'est le seul fongicide qui est utilisé en vigne bio, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est ainsi.
C'est
vous allez épandre, vous allez sortir du cuivre des mines de cuivre du Chili et vous allez aller l'épandre sous forme de sulfate de cuivre sur les terres agricoles.
Mais il ne sera pas recyclable, mais il ne disparaîtra pas.
Bien sûr, il partira
dans les nappes phréatiques.
Depuis Lavoisier, on sait que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc il va partir dans les sols, il va partir dans les océans. Hein, si vous allez recracher votre dentifrice au titane ou au zinc, vous allez passer dans une station d'épuration et ensuite ça partira dans l'océan ou ça partira dans les boues d'épuration qui sont in fine étendues sur les sols. Et puis ensuite, il y a la question du recyclage lui-même. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez quand même pu récupérer une partie de la ressource, puisqu'il y a quand même beaucoup de métaux qui ne sont pas dans des usages dispersifs, hein, là la question ça va être, est-ce qu'on peut effectivement recycler correctement? Et le problème de l'enrichissement technologique, des hautes technologies, notamment de l'électronique, c'est qu'on va utiliser des très petites quantités de plein de métaux différents qu'on va mélanger, qu'on va soit mélanger physiquement dans un alliage, soit mélanger dans des petits produits qui, in fine, vont passer en recyclage. En gros, on va broyer, hein, pour faire très simple. Hein. Qu'est-ce que c'est le recyclage d'un smartphone? Vous enlevez l'écran, vous enlevez la batterie et vous broyez. Puis vous allez passer ça dans un four. Et donc, on va récupérer une partie des métaux, mais en fait, on ne peut pas tout récupérer. Ça demanderait une énergie folle de tout bien reséparer et récupérer. Qu'est-ce qui va se passer? On va se concentrer sur un certain nombre de métaux qui ont une certaine valeur économique, par exemple le platine, le palladium, l'or, et puis les autres vont être dans les laitiers, dans les déchets industriels, qui vont être d'ailleurs ensuite épandus dans les sous-couches routières ou autres zones pavillonnaires. Donc on n'arrive pas à reboucler le cycle, et plus on est à haute technologie, plus on a de l'électronique, eh bien plus on s'éloigne de l'économie circulaire. Parce qu'un câble de cuivre, on peut le recycler à l'infini et on refait un câble de cuivre. Par contre, un smartphone qui contient une quarantaine de métaux différents, eh bien, au mieux, s'il atteint la poignée d'usines mondiales qui sait traiter ce type de produit, on va récupérer peut-être entre 10 et 15 métaux et encore de manière imparfaite. Et il y a une étude qui date de 2011 ou 12 du Programme des Nations Unies pour l'environnement qui montre très clairement que toute une série de métaux emblématiques des nouvelles technologies, dont les fameuses terres rares, mais pas que, l'indium qui sert dans les écrans plats, le tantale qui sert dans les microcondensateurs, etc., sont recyclés à moins de 1% au niveau mondial. Moins de 1%, si vous enlevez le langage technocratique, ça veut dire zéro. Hein. Et pourquoi ça veut dire zéro? Parce qu'il y a une multiplicité de petits usages et qu'il n'y a pas de valeur économique, de capacité économique à aller recycler. Ça pose un vrai sujet, parce que voilà, la croissance verte, c'est ça, c'est multiplier les alliages, multiplier des nanomatériaux dans lesquels on va aller disperser un certain nombre d'atomes métalliques dans des matrices de polymères qui ont des caractéristiques fort intéressantes, qui donnent envie, d'un point de vue, disons, purement technologique sur le papier, de dire, ah bah oui, c'est super, on va gagner en poids, on va gagner en consommation d'énergie ou autre. Mais en fait, on va consommer plus de ressources rares.
Et donc, la croissance verte ne vous convainc pas, loin de là?
J'ai des doutes sur le changement d'heure en été. J'ai des doutes sur qui coulent les bateaux, qui jettent les pavés. Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé. J'ai des doutes sur la notion de longévité. Sur la remise à flot de la crème renversée. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des hommes, des carrés, des allongés. Est-ce que vous en avez? Des devises, des pensées, de l'assise du cœur. J'ai des doutes sur l'heure à laquelle tu viens de rentrer. La certitude de t'avoir si fort désiré. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez vu? Je milite au parti zombie, je milite mais je m'ennuie. J'ai la détente sensible, l'étiquette fragile, le champagne douce. J'honore la passion bulle sans une seule virgule. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des loupes, des idées, des rêves de douceur éveillés. Le goût du danger, des routes à prendre ou à laisser.
France Culture, est-ce matière à penser, Dominique Rousset.
En compagnie de Philippe Buix, ingénieur, qui vient de faire paraître Le bonheur était pour demain, suite de notre série qu'il est dur de convaincre. Dur de convaincre, c'est vrai, même si vous avancez des arguments très scientifiques. Philippe Buix, c'est la question que je pose à mes invités cette semaine. Alain Bachung a des doutes, mais vous aussi.
Oui, c'est dur de convaincre parce que ce débat entre les lanceurs d'alerte écologistes et puis les cornucopiens,
c'est-à-dire un cornucopien, il faut nous dire ce terme. Donc c'est pas vous qui l'inventez.
Non, hein, non, ça date du débat qui était virulent aux États-Unis dans les années 60-70. Justement, les tenants de l'abondance par le progrès technologique, un cornucopien, il a la corne d'abondance. Donc on a effectivement jusqu'à présent toujours repoussé la pénurie. Et donc, on entend souvent ces phrases-là, en disant, mais attendez, c'est bon, on n'a pas inventé la métallurgie du cuivre parce qu'on est tombé en panne de silex, et puis le pic de pétrole, vous le racontez depuis les années 70 qu'il ne va plus y en avoir, et puis on avait 30 ans de réserve en 70, et aujourd'hui, on a 40 ans de réserve, et on en a même trop, parce que finalement, on commence à nous dire qu'il faudrait laisser 80% des ressources fossiles dans le sol si on ne veut pas éclater le système de régulation climatique planétaire. Donc, le débat reste virulent et avec finalement cette tendance à opposer les gens sur l'action de dire voilà, si vous n'êtes pas technophile, vous êtes forcément technophobe et donc vous êtes pour le retour à la bougie au Moyen-Âge. Moi, je suis pas du tout pour le retour à la bougie au Moyen-Âge. J'essaye simplement de mettre ma compétence d'ingénieur au service de la réflexion commune en disant non, il y a des choses, on peut pas parler d'économie circulaire à 100%. Non, c'est pas vrai que uniquement tartiner des panneaux solaires et des éoliennes partout va nous permettre de maintenir notre niveau de vie ou notre niveau de consommation énergétique et de ressources actuelles, parce que le monde des ressources, lui, n'y suffirait pas. C'est dur de convaincre parce qu'on tombe très rapidement dans des questions quasi politiques, quoi. C'est-à-dire la question de est-ce qu'il faut de la croissance ou il en faut pas. Du coup, s'il y a plus de croissance, bah comment on partage le gâteau? Parce que tant que le gâteau est en croissance, tout le monde profite des fruits de la croissance. Mais si on dit qu'il y a plus de croissance, alors il faut remettre en cause non pas faire de l'innovation technologique, mais quelque chose que Francis Bacon n'appréciait pas beaucoup. C'est-à-dire, faudrait faire d'autres types d'innovations, des innovations économiques ou des innovations politiques peut-être. On a très vite beaucoup de tenants du business as usual qui se réveillent. Ouais. Qui s'irritent.
Vous nous avez montré vos doutes, puis même vos craintes hein, sur l'utilisation des métaux. Métaux rares, à ne pas confondre avec terres rares. Attention, terre rare, c'est un métal, hein, c'est ça?
Oui, les terres rares sont une partie des métaux. C'est 16 ou 17 éléments d'une soixantaine de métaux en tout existant sur Terre. Ce terme rare qui date finalement du 19e siècle, voilà, d'une part, en termes d'abondance, ils sont pas si rares que ça. Il y en a qui sont aussi abondants que le cuivre, par exemple. Et puis, il y a d'autres métaux bien plus rares que les terres rares. Et la notion de rareté elle-même est extrêmement relative. Hein, puisque
volatile, selon l'usage qu'on veut en faire. Que pensez-vous de la géo-ingénierie? Vous n'avez pas confiance dans la science, dans ce qu'elle peut... ceux qui vous disent, un terme que je crois vous rejeter un peu, on va réparer le climat. On l'a abîmé, on va le réparer. Exemple... on a de plus en plus chaud, on a de moins en moins de pluie à certains endroits de la Terre, eh bien on va envoyer des nuages de soufre dans l'atmosphère. C'est une expérience qui avait été proposée il y a déjà pas mal d'années.
Oui, par un prix Nobel d'ailleurs.
Par un prix Nobel de chimie, absolument. On va envoyer des ballons de soufre dans l'atmosphère, et puis voilà, on fera revenir les nuages et la pluie. Vous n'avez pas confiance? Géo-ingénierie, c'est un terme qui vous...
Bon, d'abord, c'est un mot un petit peu dangereux. C'est un mot valise. Ouais. Donc, on y met beaucoup de choses. Alors, par exemple, si la géo-ingénierie consistait à retravailler nos pratiques agricoles pour que nos sols stockent massivement du carbone, ma foi, j'ai pas grand chose contre ce type de géo-ingénierie-là. Maintenant, si effectivement, il faut rentrer dans une logique d'apprenti sorcier, c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage sur la géo-ingénierie dans la collection Anthropocène.
C'est-à-dire, on a abîmé la nature, c'est pas grave, on va savoir la réparer.
Alors, c'est clairement, aujourd'hui, une des nouvelles utopies. C'est-à-dire qu'à côté des utopies, de l'utopie d'abondance, l'utopie cornucopienne, à côté de l'utopie techno-esclavagiste, c'est-à-dire les robots et les logiciels d'intelligence artificielle vont travailler pour nous, à côté de l'utopie de l'homme immortel, qui prend aujourd'hui de la vigueur avec la question de est-ce qu'on pourra télécharger le cerveau sur ordinateur ou autre, c'est une nouvelle classe d'utopie qui est apparue, c'est l'utopie réparatrice. Alors, ça passe par beaucoup de choses, hein. C'est pas que sur la question du climat. Il y a des bactéries modifiées qui pourraient nettoyer les sols ou les eaux. Il y a des gentils entrepreneurs pleins de bonne volonté qui imaginent de nettoyer les océans de leur plastique. Il y a des scientifiques russes ou autres qui essayent de faire revivre le mammouth, qui a l'avantage d'être un animal fort sympathique d'une part et dont on retrouve de l'ADN dans le pergélisol qui fond grâce au changement climatique. Il y a cette logique de dire finalement on a été trop loin. Il faut reconnaître que le progrès technologique a aussi fait quelques dégâts. Je disais dans l'âge des low-tech que les ingénieurs font rarement des omelettes sans casser des œufs, comme tout le monde. Et donc, il va falloir réparer. Alors sur la question du climat, ça me paraît effectivement un peu dangereux. On arrive bien entendu à faire des modèles climatiques qui fonctionnent bien, qui reflètent les évolutions du passé. On comprend de mieux en mieux un certain nombre de paramètres compliqués, les nuages. Bon, je suis pas spécialiste, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes dans tout ça. Pas d'incertitudes sur la réalité du phénomène, mais sur ce que va être l'ampleur,
ce que
vont être les conséquences, et par les conséquences locales ou régionales, c'est moins évident. Si on veut vraiment se mettre à prendre en charge le climat planétaire, alors d'abord, il y a une question d'échelle. Il y a des papiers scientifiques, par exemple, qui sortent. Alors en ce moment, c'est les pôles qui ont la cote. Alors il y a, par exemple, il y a des gens qui imaginent de construire des barrages sous-marins de plusieurs kilomètres de longueur, avec une centaine de mètres de hauteur, pour en fait éviter que des courants marins plus chauds viennent lécher des glaciers flottants dans l'Antarctique de l'Ouest. Alors, pour donner un ordre de grandeur, en gros, faudrait faire à peu près des choses qui sont plus grosses que le barrage des Trois Gorges en Chine,
mais en sous-marin
et en zone antarctique. Autant dire, ça fait un beau travail pour les ingénieurs du futur, mais on voit bien que ça va être compliqué. Il y en a d'autres qui imaginent d'installer des pompes flottantes recréer de la glace à partir de l'eau de mer. Et il faudrait installer des millions de pompes flottantes qui se baladeraient comme ça en Arctique pour reconstituer la glace et améliorer l'albédo, faire en sorte que la Terre réfléchisse plus de rayons du soleil.
On a d'autres qui veulent blanchir le désert, ou je ne sais.
Il y a des gens qui veulent peindre en blanc un certain nombre de choses. Alors bon, après, quand on peut imaginer des choses qui seraient réalisables. Je ne sais pas, peut-être d'imaginer qu'au niveau de l'urbanisme, de nos villes, etc., on se mette à peindre plus de choses en blanc. Enfin, quand je vois par exemple qu'aujourd'hui on commence à imaginer de se battre contre de faire attention aux îlots de chaleur urbains et qu'on continue à tartiner du bitume gris foncé ou noir sur l'ensemble de nos routes à l'intérieur des rues, à l'intérieur des villes. Je pense qu'on n'a pas encore pris tout en compte. Voilà, il y a ce problème d'échelle. Ou alors, il y a le problème de dire c'est un point de non-retour. Si on se met effectivement à installer du soufre dans l'atmosphère de manière massive. Qu'est-ce qui se passe si à un moment ou à un autre on n'a plus la capacité à maintenir ça? Il y a des effets pervers à côté. Il y a eu des tentatives avec du sulfate de fer d'ensemencer les océans pour faire capturer aux algues, aux cyanobactéries une partie du carbone qui ensuite partirait au fond des océans. Il y a eu quelques tests, ça n'a pas bien marché. L'aspect juridique est complètement ouvert, c'est-à-dire
qui aura la maîtrise, quel pays va gérer, quel pays se lance
tout seul, etc. On voit déjà la gouvernance planétaire quand vous voyez l'état des COP, des conférences sur le climat. C'est un petit peu effrayant d'imaginer qu'on puisse mettre tous ensemble à avoir ce type d'action et qui serait piloté. Je pense qu'on est encore dans le domaine du toujours plus technologique. On veut un remède qui est en fait un remède poison, quoi. C'est le pharmacone.
À tout cela, Philippe Bioix, donc à cette high-tech qui pousse toujours plus loin ses limites, vous opposez le low-tech. Vous avez écrit un livre sur ce sujet, mais vous y revenez encore dans ce dernier ouvrage. D'ailleurs, il n'est pas si récent que cela, puisqu'il y avait un premier mouvement, dès les années 60-70. Mm-hmm. Vous faites référence au Small is Beautiful, déjà. Puis même, si on revient à Ivan Illich, enfin, beaucoup d'autres penseurs, André Gorz et d'autres, avaient réfléchi à cela bien avant vous. Mm-hmm. Vous le dites carrément, mais low-tech sont peut-être plus grognons, moins enthousiasmants que tout ce que vous venez de nous raconter, enthousiasmants pour certains. Mm-hmm. Mais vous pensez que c'est indispensable. On fonce, dites-vous, dans la falaise et on n'a pas les ailes. On nous promet qu'on les aura un jour. Et vous préférez faire atterrir l'ensemble avec des propositions quand même. Et parmi les premières d'entre elles, la sobriété.
Oui, dès qu'on prend le mot technologie, on a déjà perdu une partie de la solution. Parce que finalement, c'est quel type d'objet on veut concevoir pour remplir un service ou pour. Alors qu'il faut d'abord se poser la question de quoi ai-je besoin réellement. Prenez l'exemple du bâtiment. Vous pouvez avoir des formidables bâtiments très bien conçus, qui vont consommer le moins possible, qui vont même être à énergie positive, que sais-je. Mais la première question, c'est de combien de mètres carrés j'avais besoin et est-ce qu'il fallait effectivement construire ce bâtiment? Est-ce que j'aurais pas pu faire une réhabilitation, intensifier les usages des mètres carrés? Vous voyez, par exemple, une école, c'est très mal utilisé. C'est mal utilisé parce qu'on l'utilise pas pendant les vacances, on l'utilise pas le soir, on l'utilise pas le week-end. On pourrait tout
donc
à fait imaginer.
On pourrait réfléchir à d'autres façons d'occuper les bâtiments.
Exactement. C'est une manière de faire la sobriété parmi d'autres. Et il faut d'abord se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je produis quelque chose? Alors, c'est très compliqué parce que, évidemment, les désirs humains sont infinis potentiellement. Hein. On ne désire que ce que désirent les autres. C'est le désir mimétique. Si mon voisin de pavillon a une grosse voiture, une piscine et fait des week-end spa à Budapest, ça me donne furieusement envie de faire la même chose. Comment est-ce qu'on peut inverser l'ensemble du système culturel, économique, fiscal, etc., pour inciter à une sobriété qui soit pas une sobriété punitive uniquement ou malheureuse, mais qui soit, disons, d'être capable de tailler intelligemment dans le gras, si je puis dire. Ça peut passer, par exemple, par des voitures plus petites. Aujourd'hui, on fantasme la voiture électrique, la voiture propre, la voiture toujours moins émettrice de CO2, mais en faisant des chars d'assaut qui pèsent entre 1,5 tonne et 2 tonnes.
Et la publicité ne parle que des SUV.
Voilà, et d'ailleurs, aujourd'hui, la montée en gamme et la montée en poids des voitures qui sont mises sur le marché fait qu'aujourd'hui, les voitures se sont remises depuis cette année, depuis l'année dernière. La voiture moyenne vendue en France, immatriculée en France, émet plus de CO2 que l'année précédente, alors qu'il y avait une tendance à la baisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet rebond, ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est à chaque fois qu'on va faire de l'efficacité technique, du coup on fait aussi d'ailleurs de l'efficacité économique en général, on va consommer moins pour chaque unité de transport, ou pour dans le numérique ça marche aussi très très bien. Et à ce moment-là, il y a un effet rebond, c'est-à-dire que la consommation va augmenter. C'est terrible parce que c'est toute l'histoire de l'humanité.
C'est un cercle vicieux, ça, comment en sortir ?
Eh ben, c'est très compliqué. En tout cas, historiquement, on n'en est pas sorti, puisqu'on a fait des gains gigantesques en termes d'efficacité énergétique, d'efficacité matière, d'efficacité ressources. Et pourtant, chaque année, au niveau de la planète, on consomme toujours plus. Et même au niveau d'un pays, d'ailleurs, parce qu'on pourrait dire, ah oui, mais c'est le développement des Chinois et des Indiens. Non, pas seulement. Si vous regardez juste les statistiques françaises et que vous réincorporez le solde des imports-exports, hein, en gros, on va importer des goodies de Chine et puis on va et les faire repasser et puis on va exporter des Airbus. Hein, je fais ça très simple. Eh bien, vous allez en fait avoir la facture globale à la fois en CO2, à la fois en ressources de chaque Français qui augmente. On n'est pas du tout dans une logique de dématérialisation. On est au contraire dans un monde qui n'est pas du tout post-industriel. On est dans un monde qui est hyper industriel, simplement avec des flux de conteneurs qui sillonnent la planète, bourrés de sous-systèmes, de pièces, ou de matériaux et de produits finis.
Oui, mais alors on a bien compris que ce que vous suggérez, sobriété, vous l'avez dit, effectivement, occuper des bâtiments inoccupés, c'est un exemple parmi mille autres. Mmh. Et on sait qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives citoyennes, locales, à quoi on vous répond toujours, d'accord, mais elles sont très locales, elles sont très petites, les circuits courts, les expériences d'économie moins dispendieuses. Sauf que ça suffit pas.
J'ai beaucoup d'amis dans les écologistes, on va dire, et peut-être je veux pas irriter et surtout pas bloquer de l'enthousiasme de toutes ces initiatives locales qui sont formidables parce qu'elles donnent à voir, elles testent des nouveaux modèles, elles sont aussi vecteurs de construction de soi, de résilience peut-être, de développement, exactement. C'est bien, mais la question, c'est effectivement, est-ce que ça suffit? À côté des utopies technologiques, on a aussi finalement ces utopies un peu éco-citoyennes, c'est-à-dire de se dire, bah oui, c'est par le consommateur, le pouvoir du consommateur même, qu'on va faire basculer le monde, et même presque, il y aurait juste à attendre, parce que la génération Greta Thunberg va nous apprendre à bien trier nos déchets et à prendre un peu moins l'avion. Malheureusement, quand on regarde un petit peu les chiffres ou ce qui se passe, tout est formidable, mais c'est formidablement faible en termes de volume. Enfin, je veux dire, à chaque fois que vous avez un Repair Café qui va sauver deux ordinateurs et trois smartphones, combien de centaines de milliers sont sortis des chaînes de Foxconn vomies par tous ces fabricants
Mais on progresse là aussi, non? Les data centers, par exemple, on nous disait qu'ils consommaient des milliers de...
C'est un exemple parfait. Le data center est un exemple parfait de l'effet rebond.
Oui.
Puisque, effectivement, on a aujourd'hui data centers qui sortent, ça se mesure par ce qu'on appelle le power usage.
C'était une consommation astronomique, quoi. On a baissé quand même.
Alors, il faut les climatiser parce qu'ils émettent de la chaleur. Hein. Les serveurs, c'est comme des ordinateurs. Hein. Donc, vous posez un ordinateur sur vos genoux, vous verrez que ça chauffe à peu près 100 watts, 100 watts à 200 watts. Certains GAFA les construisent maintenant dans les pays du Nord, les refroidissent à l'eau froide. On a amélioré la température de fonctionnement, on a besoin de moins les refroidir qu'avant. Bref, aujourd'hui, on a effectivement des data centers qui sont optimisés. Mais la consommation, le nombre de données, le nombre d'octets qu'on passe notre temps à s'échanger, il est multiplié par deux tous les 18 mois, c'est facile.
On a beaucoup de vidéos, je crois que la vidéo consomme énormément aujourd'hui.
Oui, on est à 80% sur les smartphones, etc. De vidéos, bien sûr. Et donc la 3G d'abord, la 4G maintenant, la 5G demain, va continuer à développer ça. Donc on a une facture numérique qui globalement d'abord est supérieure aujourd'hui au transport aérien. Ça émet plus d'environ 1 milliard de tonnes de CO2 si on prend l'ensemble de la chaîne. Fabrication et consommation à la fois dans les data centers et chez soi, et puis des réseaux. Et ça augmente plus vite que le transport aérien, qui augmente déjà très vite.
Proposition, que doit faire la puissance publique? Elle a encore quand même des moyens d'action ou est-ce qu'elle est un peu dépassée par tout cela en dehors du moment où il va falloir la convaincre?
Voilà, donc c'est là mon côté un petit peu jacobin, peut-être voilà, le côté école d'ingénieur qui fait ça. Mais
Vous êtes pour les normes?
Voilà, disons que je pense que la puissance publique a encore une énorme puissance. Elle a une puissance d'abord normative et réglementaire. C'est-à-dire que je peux tout à fait dire que la voiture de 1,5 tonne, eh ben, ça s'appelle pas une voiture et on peut pas rouler dans une voiture qui fait plus d'une tonne 5 ou une
tonne
4.
C'est liberticide, ça, Philippe Wyss.
C'est absolument liberticide. Et figurez-vous que je voulais venir ici avec un char AMX-30, un truc que ferraille l'armée française et que j'ai pu m'acheter d'occasion, mais j'ai découvert que je pouvais pas rouler avec sur le périphérique parisien et j'ai pas pu accéder à la maison de la radio avec, vous voyez. Donc, évidemment que c'est liberticide. Mais ça, c'est le 18e siècle.
Oui,
retour chez Rousseau, c'est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et évidemment, il y a un moment où la puissance publique dit, bah voilà, il y a des choses qui sont autorisées, d'autres qui ne le sont pas.
Donc on arrête avec les grosses voitures. Exemple,
typiquement, oui, ça serait un bon exemple, parce que ça pourrait être vu comme une mesure de justice sociale. Alors, c'est pas forcément arrêté, hein. Ça peut être fiscal aussi, ça peut être de dire il y a une énorme vignette, c'est-à-dire que vous payez rien quand c'est une voiture qui fait 1,2 tonne, et puis vous allez payer très, très, très cher si votre voiture fait 2 tonnes. Et rapidement, je pense, mécaniquement, l'offre va s'ajuster à la demande, et les constructeurs proposeront des voitures de plus en plus petites, et donc qui émettront de moins en moins. Donc, c'est une manière de lutter contre ce damné effet rebond dont on parlait tout à l'heure. Il y a un deuxième pouvoir de la puissance publique, c'est le pouvoir fiscal. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que votre fer à repasser, il n'est pas réparable? Pourquoi on n'arrive pas à faire cette formidable économie circulaire avec des objets durables? Parce que, ma bonne dame, quand vous allez avec votre fer à repasser, rien que de l'ouvrir pour savoir pourquoi il est en panne, ça va vous coûter le prix du neuf. Pourquoi est-ce que ça coûte le prix du neuf? Parce que les ressources, parce que l'énergie incluse dans ce produit neuf ne sont pas taxées à la hauteur des externalités, diraient les économistes, que cet objet a généré. Et alors qu'à l'inverse, on a mis l'ensemble de la sécurité sociale, l'ensemble de l'assurance chômage, l'ensemble des retraites sur le travail humain. Donc le travail humain est cher et les ressources ne coûtent rien. C'est un paradigme du 19e siècle, à un moment où on n'avait pas assez de travail et trop de ressources. Aujourd'hui, les ressources sont devenues extrêmement coûteuses et le travail, il est abondant, en tout cas dans des pays comme la France. Donc on pourrait tout à fait faire un ajustement fiscal progressif, pourquoi pas, mais pour un petit peu rééquilibrer ça, permettre toute une série d'initiatives locales qui sont plus intenses en travail humain, l'économie de la réparation, l'économie locale, l'économie du do-it-yourself, etc., qui aujourd'hui peinent, malgré un certain enthousiasme citoyen, à émerger parce qu'ils ont du mal à trouver leur modèle économique. Et puis il y a un dernier sujet qui est sur la puissance publique, c'est le sujet de l'exemplarité, de l'entraînement, de la subvention. C'est-à-dire aujourd'hui, finalement, est-ce que mon argent public, je le dépense pour faire la Startup Nation et que j'ai les yeux qui brillent uniquement quand on parle blockchain et intelligence artificielle, ou est-ce que je peux imaginer de développer d'autres types d'initiatives et avec mon pouvoir prescriptif, mon pouvoir d'acheteur.
Et vous allez même plus loin, puisque vous comptez beaucoup sur la France, vous êtes français, nous le sommes, pour être à la pointe de l'innovation, pour entraîner, au lieu de courir derrière, je ne sais plus quelle formule assez amusante d'ailleurs, vous avez de vouloir être à tout prix une start-up nation à cavaler derrière la Californie, par exemple, en s'usant à la compétition, vous aimeriez bien que la France donne l'exemple, justement.
Oui,
ça permettrait d'apaiser les tensions, ça permettrait d'entraîner derrière elle.
En fait,
et pourquoi la France d'ailleurs? Quels sont
ses
atouts?
Non, la France parce que je suis français, mais parce qu'en fait, je pense qu'on a oublié, une échelle intermédiaire. Il y a l'échelle très locale et qui est assez sympathique, c'est le Ripper Café, c'est le magasin zéro déchet. Et puis il y a l'échelle européenne ou l'échelle mondiale où en gros on dit à chaque fois qu'on a une proposition de taxer le kérosène ou bien d'interdire je sais pas quoi, tout de suite on dit ah oui mais il faut le faire à niveau mondial sinon ça va pas marcher. Et en fait non, quand vous regardez bien, il y a une échelle intermédiaire qui s'appelle l'échelle de l'État-nation ou l'échelle d'un petit groupe d'États qui voudrait peut-être avancer plus vite que d'autres sur le chemin, donner l'exemplarité aussi, c'est possible, et l'exemple fiscal en est un. C'est d'ailleurs un des problèmes de la convergence européenne, c'est qu'on n'a pas du tout d'harmonisation fiscale et que ça dépend complètement des États, et on pourrait faire énormément de choses. Si la puissance publique voulait réellement s'emparer du sujet climatique, par exemple, ou du sujet des ressources, imaginez la différence entre le super magasin en vrac qui a ouvert en centre-ville de je sais pas quelle ville de province, Angoulême par exemple, et qui va faire des formations pour faire son dentifrice soi-même, et imaginez la région Nouvelle-Aquitaine qui dirait dans l'ensemble de mes lycées, dans l'ensemble de mes administrations publiques, dans l'ensemble des entreprises publiques, on va lancer un zéro déchet. On ne serait pas tout à fait à la même échelle et à la même capacité d'action et de transformation. Et c'est un peu l'objet de la fin de mon ouvrage, de se réveiller un peu parce qu'on pourrait faire énormément de choses et donner envie. Mais pour ça, il faut du courage. Il faut le courage d'innover. Mais le courage d'innover pour de vrai. Parce que innover, c'est pas faire comme les autres. Et ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, si vous vous plantez, c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? Tout le monde innove comme les autres. On fait de la blockchain comme les autres, le couteau dans le dos, parce que si on fait pas de la blockchain, on va se faire massacrer par le concurrent ou que sais-je.
Allez, faisons autre chose.
Voilà.
C'est bien, faisons
exactement.
Autre chose. C'est bien
appel
ce que vous
à une
proposez.
Autre innovation qui soit plus organisationnelle, plus sociétale, plus sociale, plus culturelle et aussi éventuellement technologique, là où il faut, mais avec du discernement.
Et sans doute plus heureuse.
Espérons.
Merci Philippe Biouix. C'était donc le troisième volet de notre série « Environnement » qu'il est dur de convaincre avec Philippe Biouix, auteur de « Le bonheur était pour demain ». paru dans la collection Anthropocène aux éditions du Seuil. Notre équipe ce soir, Anne-Laure Chanel, accompagnée de Jean-Michel Bernot. Et pour la documentation, pour la préparation aussi de nos émissions, Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, merci à elle. On y retrouvera bien sûr sur le site dont elle s'occupe les références de tout ce que nous disons là ce soir et les autres soirs de cette semaine. Demain, justement, vous avez terminé sur l'entreprise, Philippe Duix. Nous reviendrons sur l'éthique des entreprises avec Cécile Renoir, philosophe qui les regarde de près sur leurs actions plus ou moins vertes. Bonsoir à tous, à demain.